Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Clément Vuillet. La gourmandise ce matin, c'est le virulent manque de discernement et l'amusante critique de Barbet d'Aurevilly au sujet de l'éducation sentimentale de Flaubert en 1869 dans le quotidien Le Constitutionnel. Voici l'extrait. J'ose dire, moi, qu'il n'y a pas du tout de chef-d'œuvre ici. Je dis qu'il n'y a qu'un livre médiocre, médiocre de talent d'abord, ennuyeux d'atmosphère, fatigant de peinture pointue, grossier et monotone de procédés, ignoble souvent de détails et dépassé dans ce genre par la conclusion. La critique qui, dès Salammbô, avait prévu l'épuisement définitif de Monsieur Flaubert peut écrire aujourd'hui de ses mains tranquilles l'épitaphe de cet homme mort. Sigy, qui sut faire un livre, mais qui ne sut pas en faire deux. Au lycée du Castel à Dijon, avec ses camarades Wilfried Mille et Mathieu Sapin, à l'instar de Stephen King, notre apothicaire de l'âme façonne des fanzines. Il rejoint ensuite les Beaux-Arts de la ville, puis l'atelier d'illustration fondé par Claude Lapointe aux Arts décoratifs de Strasbourg. En 98, encore étudiant, il est repéré grâce à un concours par Zep et Jean-Claude Camano, qui le recrutent dans le magazine de bande dessinée Cho, qu'ils viennent de lancer. En 2001, il publie sa première bande dessinée, le héros est évidemment un dragon, et ce n'est pas surprenant, puisque tout ce que crée notre apothicaire fait l'éloge de l'imaginaire et de l'absurde, tout en possédant une réelle profondeur. En 2004, il débute un blog dessiné dont les planches paraissent également en album chez Delcourt, maison d'édition avec laquelle il lancera aussi une collection de bandes dessinées pédagogiques sous le nom Octopus. Notre invité multiplie les albums, projets et collaborations. Il a par exemple pris le relais au dessin de Lewis Trondheim dans la série Donjon, a illustré le livre Eric le Viking du Monty Python Terry Jones, ou encore, par bonheur, le lait de Neil Gaiman. Celui qui a gardé comme nom d'artiste le surnom attribué par un grand frère qui devait tout le temps le traîner derrière lui, a pour boussole une chose épatante, l'aspect ludique des choses. Bonjour Boulet.
Bonjour.
Première question inévitable, quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ?
Quel rapport j'entretiens avec la mélancolie ? Je suis pas, je pense, quelqu'un de très mélancolique. Je suis quelqu'un, je pense, qui oscille entre des légères déprimes et une bonne humeur assez permanente. J'avais très peur, plus jeune, d'être mélancolique et d'être nostalgique quand je serais plus vieux. J'avais un rapport, pour moi, la mélancolie est très liée à la nostalgie. Et quand j'avais la vingtaine, j'étais persuadé que tout partait trop vite, que tout m'échappait, et je me disais, quand je vais avoir 40 ans, ça va être une catastrophe. Je vais avoir que des regrets, je vais avoir que des souvenirs. Et donc j'avais une tendance, par exemple, à accumuler les souvenirs, à garder absolument tout. J'avais une âme de collectionneur, comme ça. Et puis en fait, arrivé à 40 ans passés, maintenant quand je regarde le bordel que j'ai accumulé, j'ai souvent tendance à me dire, je m'en fiche en fait, et tout part à la poubelle. C'est-à-dire que je me rends compte que je suis beaucoup moins mélancolique et beaucoup moins nostalgique que je l'étais quand j'avais 20 ans, ce qui me paraît un paradoxe, mais dont je suis plutôt satisfait, en fait.
Il y a deux choses qui me frappent, Boulet, en vous écoutant. La première, dans une interview, j'ai lu que vous collectionnez les objets rétro et que vous vous disiez, j'aimerais bien qu'on dise plus tard de mes albums qui sont très connotés années 2000.
Alors, je collectionne rien, en fait. Je n'ai pas de collection d'objets rétro. J'ai une espèce de fascination pour le rétro. Dans le sens du design, c'est-à-dire les objets rétro me fascinent par les choix qui ont été faits à l'époque.
Comme les Minitel ou
les Minitel,
que vous dessinez d'ailleurs.
Voilà, les ordinateurs des années 80 et puis même le design des années 80 avec des couleurs un peu marron, orange, les claviers qui avaient cette couleur vieille ivoire. Et je m'étais amusé à imaginer qu'on avait prolongé ce look jusqu'aux années 2020 et j'avais appelé ça le Formica Punk.
Qu'on retrouve d'ailleurs dans Notes, qui s'appelle Formica Punk, c'est le septième volume de vos notes qui paraissent sur votre blog dessiné. très très drôle.
Voilà, et c'est l'idée qu'on a gardé cette esthétique des années 80, mais pour le matériel de nos jours. Donc j'avais fait une petite BD comme ça, où le personnage tapait sur son PC, mais qui avait un écran arrondi, cathodique. Et dans la tour, au lieu d'avoir un bouton qui éjectait un plateau de CD, c'était une cassette, et il enregistrait ses fichiers patiemment sur cassette, pendant que le Minitel téléchargeait des séries télé. Je veux dire, visuellement, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup dans ces époques.
Il y a la seconde chose, Boulet, vous avez vu, je fais ça avec du suspense, c'est que vous dites n'être pas nostalgique, mais dans une interview, vous dites, c'est peut-être encore une erreur de propos rapporté, mais vous dites, je ne regrette pas l'époque, mais je regrette de ne plus être un gamin.
Ah ben ça, je pense qu'on a tous cette surprise quand on vieillit un peu. Hein, je pense effectivement, il y a des choses que je regrette enfin qui me manquent dans l'insouciance totale de la jeunesse et aussi ne serait-ce que dans la forme physique. Je pense que la plus grosse surprise que j'ai eue en vieillissant, j'avais l'impression quand j'étais petit que quand on vieillissait, on se transformait vraiment. C'est-à-dire que j'allais être quelqu'un de complètement différent quand j'allais être vieux et que j'allais me transformer en adulte. Et en fait, je pense que le truc qui m'a le plus surpris en vieillissant, c'est que la notion du moi, la notion du je, reste en fait la même. C'est-à-dire qu'à 20 ans, je pensais à moi-même comme moi, et à 40 ans, c'est pareil. J'ai juste l'impression qu'il y a eu des transformations physiques et quelques opinions qui ont changé, quelques connaissances qui se sont rajoutées. Mais je reste fondamentalement moi, et donc il y a quelque chose de terrifiant, parce que par moment, en tant qu'adulte, on a l'impression d'être encore le gamin aux commandes d'un corps qui est devenu trop lourd, trop vieux. J'ai eu des mauvaises surprises comme ça. Je l'ai raconté aussi en BD. J'ai un neveu qui avait peut-être 10-12 ans à l'époque. Et à un moment, on parlait de gymnastique et de choses comme ça. Et je lui ai demandé s'il savait faire la roue. Et il me dit, non, pas très bien. Et toi? Et je dis, oui, bien sûr que je sais faire la roue. Et c'était pas un mensonge, hein, dans ma tête. Je repensais à mon moi de 18 ans. Je faisais des roues impeccables. Et je me suis dit, je vais te montrer. J'avais oublié que j'avais 40 ans. Il s'est passé un tas de choses. Il s'est passé des vibrations à des endroits que je soupçonnais pas. Il s'est passé plein de ballottements, de truchements, de choses, de bloblottements. Et j'ai atterri lourdement en laissant un cratère dans le jardin. Et je pense que j'ai été dans le coma pendant quelques secondes. Et techniquement. Mais voilà. Et ça, c'est une surprise. C'est-à-dire, j'avais oublié que j'avais pas vérifié pendant 20 ans que je savais faire la roue. Et tout à coup, on dit, oui, tu savais faire la roue il y a 20 ans.
C'est terrible.
Mais oui.
Ce que vous racontez, Boulet. Bon, j'annonce quand même ce qui va un peu nous réjouir aujourd'hui. Vous allez convoquer Le Goût du Thé, Norman Rockwell, du dessin Un Disque Monde, de l'astronomie, Bill Watterson, Charles Baudelaire, La Fin du Monde et La Chance en Musique, juste après un morceau de la playlist France Inter, J'aimerais tant, d'Ezéchiel Pays.
Oh, j'aimerais tant rester m'endormir auprès de toi, s'aimer tous les deux, mais je dois partir. La nuit reste avec toi, le train n'attendra pas, et mes larmes coulent déjà. Alors amour, à demain. J'aimerais tant rester m'endormir auprès de toi. partir. La nuit reste avec toi. Le train n'attendra pas. Et mes larmes coulent déjà. Alors amour, à demain. J'aimerais tant rester m'endormir auprès de toi.
Sur France Inter, en compagnie de Boulet. The Taste of Tea de Katsuhito Ishii, la séquence musicale intitulée Mountain Song, la chanson de la montagne. Vous m'avez fait découvrir un film, Boulet, vraiment, que je recommande aux auditeurs. C'est burlesque, ça pourrait être un dessin animé, mais réaliste. Enfin, réaliste, je veux dire, dans les pixels. C'est une succession de sketchs loufoques, des gens finissent dans le ciel. Bon, je vous laisse nous faire un résumé de l'intrigue si vous y arrivez.
L'intrigue, c'est une famille, en fait. On suit une famille, et chaque membre de la famille a des préoccupations différentes. La petite fille se sent un peu seule, un peu à l'écart. Le petit garçon est obsédé par une petite fille qu'il veut aborder. Le grand-père veut écrire une chanson. Il y a le fils mangaka. Enfin, chacun a un petit peu son rôle, etc. Et on suit comme ça. C'est un film qui est très doux, qui est très lent. Il dure 2 heures, mais comme vous dites, c'est une succession de scènes burlesques, touchantes, mignonnes, et avec un très joli final en plus qui parle de du regard qu'on a sur les uns sur les autres. C'est quelque chose qui est vraiment rempli d'amour, de tendresse. Et donc moi, ça, c'est vraiment un de mes films. On m'avait demandé un film remède à la mélancolie, et je pense que c'est un de mes films préférés du monde.
Ah mais il est extraordinaire, tout est surprenant, tous les personnages sont un peu fous. Boulet, je pense justement à la petite fille que vous venez d'évoquer, elle, son but est de faire disparaître son double géant. Elle a un doppelganger en fait géant qui la suit partout, et elle pense qu'en faisant un tour sur une barre de gymnastique, elle va pouvoir s'en débarrasser.
C'est ça.
Et alors moi, mon moment préféré, c'est quand le grand-père demande en boucle, en chantant à la petite fille, « Pourquoi es-tu un triangle ?» Au premier degré. Voilà, en boucle, et ça dure 5 minutes.
Moi, j'avoue que j'aime beaucoup le passage où l'oncle raconte qu'il a été hanté par un mafioso, comment on appelle ça ?
Un yakuza.
Un yakuza, oui. Parce que un jour où il avait une envie pressante, il est allé faire ses besoins sur ce qu'il pensait être un gros champignon blanc qui dépassait du sol.
Dans une forêt hantée.
Et après ça, il était suivi par un yakuza qui avait un caca sur la tête. Parce qu'en fait, il avait fait ses besoins sur le crâne du yakuza, et le yakuza était pas content et le suivait partout. Et je crois que d'ailleurs, c'est de là que vient l'idée de la petite fille, c'est que à l'époque, l'oncle avait dit, si j'arrive à faire un tour sur moi-même, alors je connais pas assez bien la mythologie japonaise pour vraiment interpréter ce geste. Moi, je me suis demandé s'il y avait pas un rapport avec l'histoire du raton laveur qui est censé pouvoir se transformer s'il fait un salto arrière avec une feuille sur la tête.
Le tanuki,
voilà. Et je me suis demandé s'il y avait un rapport, mais ça, il faudrait vraiment analyser le film plus sérieusement que je ne l'ai fait pour le savoir. Et bref, il y arrive et il se débarrasse de son yakuza avec un caca sur la tête, et c'est pour ça qu'après, la petite fille se décide à essayer de faire pareil.
15 years old and I've never seen a lady except completely dressed, you know. And I go to art school and I go into the antique class where you draw from chaos, you know, Venus, Adonis, and things like that. Very impersonal. And on the wall that separates that from what they call the life class, over the years there have been a lot of little holes put in it where you can look through into the life class. Now, you gentlemen most likely think we were looking through to see the lady or the gentleman who were posing in the other room. It wasn't that. It was a might have been for a few, but well, wasn't a lot. But we were really looking in to see this heaven that we were going to. We were going to draw from real people.
Boulay, il y a plusieurs artistes visuels qui vous réjouissent. Et d'abord, il y a le peintre figuratif et illustrateur américain Norman Rockwell, qu'on vient d'entendre en direct de 1960, raconter une anecdote de ses années d'études. Lorsqu'il devait dessiner des statues, il espionnait le cours de dessin de modèles vivants en se défendant de les regarder uniquement parce qu'ils étaient nus. Norman Rockwell, donc celui qui annonce l'hyperréalisme, qui a inspiré George Lucas, Steven Spielberg, Zemeckis. Et je vous laisse nous en parler. Comment est-ce qu'on pourrait décrire aux auditeurs son œuvre à ceux qui ne le connaissent pas?
Il a une œuvre qui, pour moi, est presque journalistique, ce qui me touche dans son travail. Et encore une fois, je ne suis pas un très grand connaisseur de sa vie ou de son œuvre. Je suis juste frappé visuellement par ses peintures à chaque fois que j'en vois. C'est qu'il y a quelque chose d'à la fois complètement dans la continuité d'un héritage traditionnel, c'est-à-dire c'est du dessin académique très très poussé, c'est un figuratisme très très beau, en plus il a un très bon sens de la composition, de la lumière, etc. Mais mis au service presque de l'actualité, c'est-à-dire c'est des petites scènes de vie de l'Amérique des années 50, 60. Je trouve ça assez bouleversant parce que je trouve qu'un peintre comme lui qui s'attache à des petits détails, à des petits détails touchants, va avoir plus de force pour retranscrire son époque finalement qu'un photographe de la même époque. Et donc pour moi, il y a cette espèce de plongée dans cette Amérique lointaine qui a quelque chose de complètement fascinant dans sa justesse et encore une fois dans sa tendresse, parce que c'est quelqu'un qui a un regard très bienveillant sur absolument tout ce qu'il peint.
Mais c'est vrai que le caractère de témoin de son époque est très visible, notamment lors de sa collaboration de 1916 à 1963 avec le magazine The Saturday Evening Post, où il représente justement des scènes de la vie quotidienne aux États-Unis d'entre deux guerres, d'après guerre. Est-ce que vous avez déjà été jaloux d'un dessinateur ou d'un peintre, Boulay?
Ah oui, tout le temps.
Ah, ça me rassure.
Ah non, sans arrêt. Je suis content d'avoir ce que j'ai. C'est-à-dire, j'ai un dessin qui me permet d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Donc il y a quelque chose, mais ce qui est paradoxal, c'est que je peux aller que jusqu'à mes limites en quelque sorte. C'est-à-dire que quand je vois tout à coup un dessinateur ou une artiste qui va nous emmener hyper loin parce que elle a un talent ou il a un talent en dessin que moi je n'ai pas, ben je vais avoir envie de savoir faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire dessiner mieux, dessiner plus réaliste, dessiner plus juste. Ça va dans les deux sens en plus. Moi, sur Internet, je m'efforce de suivre le travail de beaucoup d'artistes qui font par exemple du décor, du storyboard, de la recherche de personnages pour du dessin animé. Et donc là, il y a des talents presque anonymes, parce que finalement on les connaît pas si bien, mais qui font des choses absolument merveilleuses et qui ont en termes de qualité de dessin, des atouts que moi j'aurais jamais. Mais ça va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent à une espèce de simplicité, une espèce d'épure dans leurs traits, que moi j'ai pas non plus. Et donc moi j'ai l'impression d'être coincé dans ce semi-réalisme, un peu cartoon, et d'avoir envie quelquefois d'aller plus d'une direction ou plus de l'autre.
Mais finalement, Boulay, là, vous décrivez un sentiment plutôt noble. C'est de l'admiration et du désir d'élévation grâce aux autres, plus que de la jalousie.
De la jalousie, non. Je pense que j'ai vraiment pas du tout le sens de la compétition d'une manière générale, et c'est pour ça je pense que je fais du dessin. C'est que pour moi les disciplines artistiques, c'est vraiment là où il y a le moins de compétition. On nous demande pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre, on nous demande juste d'être meilleur que nous-mêmes. On nous demandera jamais de battre quelqu'un en dessin. Et enfin, quelquefois on nous le fait pour le spectacle dans des festivals, on nous dit allez, vous avez une minute pour faire un dessin et le public vote. J'ai horreur de ça. On me le demande à chaque fois, mais j'ai horreur de ça. Personnellement, tout ce qui ressemble à un affrontement, en fait, je l'ai en horreur. Et donc pour le dessin, moi, c'était c'est purement de l'admiration et de l'envie plus que de la jalousie. Oui.
Un autre dessinateur et peintre que vous affectionnez et admirez, Boulet, c'est l'auteur de bande dessinée américain Bill Watterson, connu pour sa série Calvin et Hobbes, qui n'a pas donné d'interview. Peut-être dans la presse écrite, mais en tout cas, il n'existe pas d'archives audio, je crois.
Alors, ouais, je sais qu'une amie a essayé de l'interviewer et qu'elle s'est, elle est partie dans tout un périple pour essayer d'avoir accès à Bill Watterson. Elle avait trouvé son adresse. Elle venait, si je me souviens bien, de l'île de la Réunion. Elle avait fait le voyage. Elle est allée au village où il descendait de temps en temps. Elle avait demandé au village, on lui a dit, va à l'épicerie et laisse-lui un mot et il te dira oui ou non. Et elle avait attendu une semaine dans ce village et elle avait eu le mot qui lui disait non merci.
Ça va un peu dans le sens de ce que je viens d'évoquer.
Oui, il est extrêmement secret. Ça, je le savais. Mais je pensais qu'il avait quand même donné des interviews à certains moments. Je crois qu'il existe même très peu de photos de lui. Je crois que
d'ailleurs, il n'existe pas.
Si ça se trouve, c'est un autre artiste qui se fait passer pour lui.
Exactement. Un petit mot sur lui, sur ce que vous aimez chez lui, Boulet.
Bill Watterson, alors Calvin et Hobbes, c'est tout simplement une des BD qui m'a fait le plus mourir de rire de ma vie. Enfin, j'ai découvert ça quand j'étais au collège, dans la toute première collection qu'il y avait eu. Je ne sais plus comment elle s'appelait. C'était des albums cartonnés. Ils n'avaient pas voulu commencer au premier. Ils avaient commencé au deuxième ou au troisième. Et puis après, ça, quelques années plus tard, ça a été racheté par Hors Collection, je crois, qui a fait toute la série. Et moi, on me l'avait présenté, ah, c'est un petit garçon, il a un tigre en peluche, et puis quand les parents sont pas là, le tigre devient vivant. Et j'étais persuadé que ça allait être le truc le plus cucu du monde et qui m'intéresserait pas. Je pensais que ça allait être un truc un peu mignon et tout. Et puis quand j'ai commencé à le lire, c'est absolument génial, quoi. C'est du strip, c'est souvent extrêmement drôle, grinçant, il y a de l'humour noir et encore une fois, beaucoup de tendresse. Et puis, je sais pas, je dois avoir quelque chose avec cette Amérique un peu idéalisée de la petite famille en banlieue, mais je sais pas pourquoi ça me parlait quand j'étais gamin.
Dans les activités qui vous mettent en joie, Boulet, il y a évidemment le dessin, je veux pas qu'on en sorte tout de suite. Et alors, vous dites, dessiner en public serait bien classé. Mais alors, en public, dehors, en prenant les passants pour modèle, ou en public, public, comme par exemple ce que vous avez fait avec le groupe Inglenook?
Alors je dirais les deux en fait. J'adore dessiner dehors, c'est vraiment une activité que j'aime bien, que je trouve très zen, très reposante. Mais je pense que c'est ce qui m'a le plus manqué en fait dans le dessin, dans mes débuts, c'était la dimension spectacle. J'ai souvent répété que je trouvais que la bande dessinée était un métier vraiment de moine. Et quand j'ai commencé à faire de la BD, je bossais sur un album pendant 6 mois. À l'époque, je vivais dans un 20 mètres carrés à Paris. Et donc, j'avais mon tout petit 2 pièces. C'était 2 minuscules pièces. Je bossais avec le frigo à 1 mètre de moi dans le dos sur ma table à tréteaux et je faisais mes BD. Et pendant six mois, je sortais pas, je voyais personne. En plus, je venais d'arriver à Paris, je connaissais personne. J'avais Internet, mais je l'utilisais à peine. Et puis après, les 6 mois, on rendait son album. On avait un coursier qui venait chercher les DVD. Ça va pas parler aux plus jeunes. Et une fois qu'on avait rendu les DVD, on savait qu'il y avait encore 3 mois de fabrication. L'album allait paraître, comme c'était quand même pas des best-sellers non plus. J'allais pas forcément en entendre parler beaucoup dans la presse. Quelquefois, il y allait avoir un article par-ci par-là, pas forcément un bon article en plus. Et encore 1 mois ou 2 plus tard, dans un festival, j'allais enfin voir quelqu'un qui allait me dire « J'ai bien aimé ce que vous faites ». Et je pense que cette espèce de retour positif sur son travail, on en a besoin. Enfin, moi, j'en ai énormément besoin. Je sais que si j'ai une faiblesse, c'est celle-là. J'ai un besoin quand même de validation assez permanent dans ce que je fais. Et le fait d'avoir tout à coup Internet, c'est pour ça qu'est né le blog. C'était d'avoir une plateforme qui me permettait de mettre des dessins et directement derrière, on avait une réaction. Dans les secondes qui venaient, il y avait des gens qui postaient des commentaires, qui partageaient et tout. Et ça, c'était fantastique. Pour la première fois, j'avais l'impression, comme un musicien peut avoir l'impression de rencontrer son public quand il monte sur scène, moi, c'était pareil avec le dessin. J'avais découvert un truc. Et après, j'ai fait du dessin sur scène et j'ai eu en plus cette sensation. Et moi, je trouve ça absolument fantastique, effectivement, de dessiner, avoir des gens qui réagissent.
En tout cas, je vous donne une validation à ma petite échelle. Boulet, vraiment, je dois dire pour les auditeurs que vos notes, la lecture de vos notes me font rire à voix haute et c'est suffisamment rare pour être signalé. Vraiment.
Pas cher, parlez-en à vos amis.
Oui, et même à vos ennemis. Dans un instant, nous nous rendrons dans un monde porté par 4 éléphants prenant appui sur le dos d'une tortue, juste après un titre de la playlist Inter, Tame Impala, It Is True.
You were high.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de l'auteur et dessinateur Boulet.
In some ways, this world is increasingly difficult to describe. It started out as an antidote to fantasy. I started it in the early 80s when there were far too many copies of Tolkien floating about, and I thought things needed livening up a bit. And so I started off by parodying existing writers, good and bad. And after a few books, I discovered the joy of plot. And without ever really thinking about it, I suddenly embarked on writing, I think, what must be one of the longest fantasy series ever, at least longest fantasy series ever written by one person.
En résumé, le disque monde est difficile à décrire. Ça a commencé comme un antidote à la fantaisie. J'ai débuté au début des années 80. J'ai commencé à imiter différents auteurs, bons ou mauvais. Après quelques livres, j'ai découvert le plaisir de l'intrigue et sans y penser, je me suis embarquée dans la plus longue des séries fantastiques écrites par un seul homme. C'est l'écrivain anglais Terry Pratchett au sujet de sa série de fantaisie humoristique Les Annales du disque monde, archive de 2008, année de son anoblissement par la reine. Le premier tome de la série est paru en 1983. Il y a 41 volumes en tout, et Boulet, vous dites les avoir relus plusieurs fois, tous.
Oui, je suis encore en train de les relire une fois de plus en ce moment. C'est un excellent remède à la mélancolie.
Alors racontez-nous, on est sur une tortue géante surplombée de quatre éléphants sur le dos desquels repose un disque. Et sur ce disque, il y a un coupe-gorge.
C'est ça, c'est... L'histoire du disque monde, il s'est inspiré de plusieurs mythologies et donc effectivement c'est un monde plat qui circule sur le dos de quatre éléphants eux-mêmes juchés sur la carapace d'une tortue qui s'appelle la Grande Atuine. Et très vite ce détail est occulté, puis on se concentre sur ce qui se passe à la surface du disque. On est dans un univers héroïque fantasy, donc où cohabitent les humains, les trolls, les nains, les gobelins, les vampires, les loups-garous, etc.
Les coffres à pattes.
Les coffres à pattes, où la magie existe, effectivement. Et Terry Pratchett, au début, c'est exactement ce qu'il dit dans son interview, on sent qu'il essaye plein de trucs, qu'il s'amuse à se moquer de ces principes-là, mais... Terry Pratchett est quelqu'un qui a un esprit, enfin qui avait un esprit scientifique très développé. C'était vraiment un fan de vulgarisation et quelqu'un de très savant. Et donc il s'amuse petit à petit à faire fonctionner ce monde, c'est-à-dire que tout devient cohérent. Il s'amuse à équilibrer les rapports de pouvoir entre les personnages du disque, etc. Et il crée des petites intrigues ici et là. À un moment, il dit... dans un de ses livres, que le disque monde est un miroir de tous les mondes. Et c'est là où, tout à coup, la série devient vraiment extraordinaire et devient vraiment encore plus intéressante. C'est que il se met à parler de problèmes sociaux, il se met à parler de problèmes politiques à travers ce qui se passe dans ce monde. C'est-à-dire qu'il va raconter, par exemple, que les espèces finissent par cohabiter dans des grandes villes et que ça crée des tensions entre les groupes. Donc, il va décrire les tensions qui peuvent exister entre les nains et les trolls et les humains et les nains, et pourquoi là-dessus se rajoutent des couches de religion, se rajoutent des explications sociales sur la pauvreté. Et en fait, ça devient un truc super profond, avec un truc multicouche, Où on retrouve des problématiques qu'on a tous les jours dans notre monde à nous.
C'est à la fois un univers très élaboré et on sent l'amusement de Terry Pratchett qui est communicatif à chaque page puisqu'il s'amuse vraiment en écrivant. Et il y a des choses un peu cartoonesques justement, il y a des choses qu'on retrouve dans la bande dessinée. Je pense notamment à quand les personnages, il dit et le personnage répondit, point d'exclamation, il met un point d'exclamation, comme si on pouvait répondre à un point d'exclamation ou un point d'interrogation.
Exactement. Ben c'est quelqu'un. Puis oui, voilà, c'est surtout le truc qu'il faut dire, c'est que ce sont des livres qui sont extrêmement drôles. Terry Pratchett a un humour très anglais, très pince sans rire, comme ça. Et moi, ce sont des livres qui me font aussi mourir de rire. Mais quelquefois, encore une fois, il se contente pas de l'humour, il va aussi quelquefois au-delà dans la critique, et aussi il n'hésite pas à faire des passages dramatiques, émouvants, etc. Et je pense que c'est là qu'on trouve la justesse, c'est quand on arrive à équilibrer tout ça.
Boulet, vous avez apporté une très belle édition.
Des éditions de La Talente, ouais, de Terry Pratchett, qui tombe un peu en miettes, parce que vous voyez, là, il a 20 ans, ce livre, je crois, donc il a un peu jauni et il a perdu des pages, mais...
Est-ce que vous nous liriez un extrait que vous aimez bien ?
Alors, j'ai trouvé un extrait assez court, hein, on m'avait dit qu'il fallait un extrait assez court,
oui, et c'est justement... C'est une dictature ici, vous le savez.
On parle du commissaire Vimer, qui a une haine de l'injustice très développée, notamment une haine des riches qui découle de sa haine de l'injustice, ce qui est assez logique. Et donc là, à un moment, il parle justement de comment les riches restent riches. Les riches étaient riches, concluait Vimer, parce qu'ils parvenaient à dépenser moins d'argent. Tenez, les bottes, par exemple. Ils gagnaient 38 piastres par mois, plus les indemnités. Une très bonne paire de bottes en cuir coûtait 50 piastres. Mais une paire abordable, du genre à tenir une saison ou deux avant de prendre autant l'eau qu'une éponge, dès que le carton rendait l'âme, en coûtait à peu près 10. C'est ce modèle que Vimer achetait toujours et portait jusqu'à ce que la semelle devienne si mince qu'il arrivait à deviner dans quelle rue d'Ankh-Morpork il se trouvait, par nuit de brume, rien qu'au contact des pavés. Mais ce qu'il faut dire, c'est que de bonnes bottes duraient des années et des années. L'acheteur en mesure de débourser 50 piastres pour une paire de bottes gardait les pieds au sec au moins 10 ans, alors que le miséreux qui ne pouvait s'offrir que des bottes bon marché dépensait 100 piastres dans le même laps de temps et se retrouvait quand même les pieds mouillés. C'était la théorie bottière de l'injustice socio-économique du capitaine Samuel Vimer.
Alors, Ankh-Morpork, c'est la ville où l'intrigue se passe.
C'est la plus grande ville, selon la description de Terry Pratchett, qui s'étale comme un bol de soupe renversé à la surface du disque monde.
Il y a des dessins qu'on peut trouver sur Internet, oui. D'ailleurs, de cette ville et du disque monde. C'était donc Terry Pratchett, et c'est amusant, Boulet, puisque l'extrait que vous avez choisi peut faire penser à certains auteurs russes comme Gogol ou Dostoïevski quand ils décrivent justement les petits fonctionnaires. Je pense à la nouvelle Le Manteau, où en fait il a un manteau élimé, et il y a tous ces ressassements et ces monologues intérieurs sur l'injustice. Voilà, c'est la chute de ma phrase. C'est tout. Vite, vite, une archive.
Il faut regarder les étoiles tour à tour. Ce sont des soleils pour troubadours. Il faut accrocher des étoiles au ciel de pluie pour que brille un peu plus fort les jours trop gris.
Nous avons choisi d'illustrer votre idée anti-spleen Boulet par Michel Delpech. Il faut regarder les étoiles. Vous nourrissez la même passion que Terry Pratchett. Alors je lis votre réponse en intégralité. Je suis un athée convaincu, mais je trouve énormément de bonheur et de joie dans l'exploration des connaissances humaines. Aucune fiction n'a jamais réussi à me faire partir aussi loin qu'un bon livre de vulgarisation d'astronomie ou de biologie. Je parle de livres simples, je ne suis pas assez savant pour comprendre la littérature scientifique trop pointue. Alors j'aimerais savoir, Boulet, pourquoi la biologie et l'astronomie vous fascine, quel livre vous recommandez aux auditeurs et qu'avez-vous appris qui vous émerveille, par exemple ?
Alors, je pense que l'astronomie, moi, c'était la fascination de réaliser soudain la taille de l'univers. Quand j'étais petit, on me prêtait des télescopes ou des jumelles, je demandais les jumelles de la voisine, ou alors j'empruntais un télescope à mon oncle, et j'allais dans le jardin et je regardais pendant des heures les étoiles, et en lisant les livres, je comprenais vraiment que la Terre était vraiment minuscule autour du Soleil, et que le Soleil lui-même était minuscule dans la galaxie, etc. Il y avait comme ça une idée de gigantisme tellement impossible à appréhender qu'elle me fascinait. Et je pense que quand j'allais dans le jardin et que je regardais à travers le télescope, j'arrivais parfois à avoir ce vertige, c'est-à-dire à tout à coup réaliser la taille de l'univers. C'est-à-dire, on regarde la Lune, on voit un rond dans le ciel, on voit un dessin. Notre cerveau l'interprète comme une image dans le ciel, mais si on la regarde au télescope, tout à coup, on voit quelque chose qui bouge lentement, on voit la lumière caresser des crêtes de montagne, on voit des cratères, et tout à coup, on prend conscience que c'est pas une image dans le ciel, c'est un monde, c'est quelque chose de lourd qui attire, et il y a comme ça ce gouffre au milieu de l'espace, et on se dit, et on a tout à coup conscience comme ça de son insignifiance en regardant le ciel, et pour moi c'était vraiment complètement hypnotique.
Mais justement, Boulet, vous dites on a conscience de son insignifiance. Je pense aussi au déterminisme biologique. Je pense aussi au fait que les étoiles soient des astres morts. Il y a aussi une mélancolie du cosmos.
Oui, mais c'est surtout... Pour moi, il y avait quelque chose de qui nous dépasse complètement, et c'est quelque chose
de plus grand,
et surtout d'encore mieux que toutes les explications magiques qu'on pourrait nous donner.
Le réel surpasse l'imaginaire.
Souvent, les gens qui nous disent regarde comme la nature est merveilleuse, et on oppose souvent l'espèce d'amour littéraire de la nature. Le côté le poète Virgile qui s'émerveille de la nature, et on oppose ça à la science. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que moi, l'émerveillement face à la nature le plus profond que j'ai eu, c'était à travers la science. Les gens qui me disent « c'est beau les fleurs », je suis d'accord, mais si tout à coup je comprends que la fleur a un cycle de reproduction incroyable et qu'en plus elle collabore en sous-sol avec des champignons pour refaire des réseaux mycéliques et avec des insectes pour... Tout à coup, il y a quelque chose de tellement complexe, de tellement étourdissant que ça devient mieux que de la magie, en fait. Ça devient mieux que toutes les mythologies qu'on a pu inventer.
Boulet, est-ce que vous avez un ou deux titres à recommander aux auditeurs?
Alors, j'en recommanderais... Alors, pour l'astronomie, je pense que vous l'avez souvent reçu ici, mais en français, il y a Christophe Galfard, qui
Bien
a écrit
sûr.
L'univers dans le creux de ma main, je crois, si j'ai le titre exact, que je recommanderais. Et pour d'une manière plus générale, les gens qui voudraient s'intéresser à la science mais qui savent pas par quelle boule prendre, moi le livre que je recommande très souvent, c'est un livre d'un écrivain américain qui s'appelle Bill Bryson, un journaliste américain, et qui a écrit un livre qui s'appelle Une histoire de tout ou presque. Et c'est quelqu'un qui joue le naïf, c'est-à-dire c'est quelqu'un de très savant, mais qui joue les naïfs, c'est-à-dire il dit, on nous dit le soleil est à telle distance, un atome a telle forme, la Terre fait tel diamètre, comment on le sait ? C'est-à-dire, il va pas nous inculquer des connaissances, il va dire, on va aller voir des scientifiques, on va discuter avec eux, et on va comprendre comment on sait ce qu'on sait et comment on en est venu à le comprendre.
Une histoire de tout ou presque, Bill Bryson.
The end of the world, the air is salty, the sea lions cry for their souls lost at sea. That you've left behind, and all the way ahead, they melted in the heat of this never-ending day. From the bed of your body, there is no escape. There's no and said pa pa ba da ba da 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 pa pa ba da 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 da. At the end of the world, the air is salty, the sea lions cry for their souls lost at sea. All that you've left behind, and all the way ahead, they melted in the heat of this never-ending day. From the bed of your body, there is no escape.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Boulet qui vient de nous faire entendre un morceau de 2012, End of the World, donc fin du monde, hein, du groupe Inglenook. Inglenook est un vieux mot anglais qui signifie petit coin près de l'âtre, soit l'endroit où on se retrouve pour se réchauffer en société. Et le groupe est composé d'Agathe Perra, Alban Meyer et Corentin Boiseau-Blaise qui se sont rencontrés pendant le lycée à la maîtrise de Radio France.
Ah bah voilà, ouais, tout se recoupe.
Évidemment.
Ah bah, si je peux commenter la chanson,
bah oui,
voilà, en une minute, ce sont des amis déjà. C'est,
ouais,
ce sont des gens que j'aime énormément. J'aime beaucoup cette chanson parce que justement, elle commence comme quelque chose de triste et puis il y a une montée comme ça jusqu'à la fin où ça crie presque. Et c'est une chanson qui, bien qu'elle soit comme ça un petit peu mélancolique et triste, me met toujours de bonne humeur. Bon, il y a aussi une part de subjectivité, mais j'ai beaucoup de subjectivité dans mon rapport à la musique, et donc voilà, ça me fait penser toujours à Agathe et à ses amis, et ça me met de bonne humeur. C'est avec eux que j'ai travaillé, on a fait un concert dessiné, où on était sur scène, et moi j'illustrais les chansons en direct pendant que le groupe chantait. Et c'est un excellent souvenir.
Do you hear me talking to you? Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky, oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to
2008, Lucky par les Américains Jason Mraz et Colby. Alors je dirais Kaya, mais apparemment ça se prononce Carly quand on regarde sur internet. Un petit mot sur le choix de ce titre, Boulet?
Ça, encore une fois, ça vient de mon rapport à la musique qui est très lié à mon vécu. C'est-à-dire que mes goûts musicaux, c'est un chaos absolu. C'est-à-dire que les playlists qu'il y a dans mon ordinateur, ça va passer de Bach à Amy Winehouse en une chanson et il y a absolument zéro blague, quoi. C'est-à-dire ça fait Bach, Amy Winehouse, Brassens et après ça repart sur du Dire Straits avant de retomber sur du Bobby Lapointe. Et parce que pour moi, les musiques, c'est vraiment, je les perçois vraiment comme des morceaux de temps, c'est-à-dire je me souviens quand j'ai entendu cette musique, ce qu'elle m'évoque. Et je pense que c'est là mon aspect collectionneur nostalgique le plus poussé, c'est dans la musique, c'est-à-dire que c'est une sorte de code, mes playlists sont une sorte de code impénétrable à mon avis pour ceux qui n'ont pas mon vécu. Et cette chanson, Lucky de Jason Mraz, c'est une chanson qui vient du moment où je me suis senti le plus lucky, le plus chanceux dans la vie. C'est quand je vivais avec ma fiancée à Los Angeles. On écoutait ça en voiture, donc moi j'entends cette chanson, je suis sur le siège passager de la voiture, il y a des palmiers qui défilent et il y a la femme de ma vie sur le siège à côté. Donc évidemment c'est une chanson qui me procure un bonheur difficile à contenir.
C'est vrai que n'importe quelle phrase avec Los Angeles, on a l'impression que c'est extraordinaire.
Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui rit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui fuit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans trêve, de vin, de poésie, d'amour ou de vertu, à votre guise.
1968, Serge Reggiani récite « Enivrez-vous » de Charles Baudelaire en réponse à une question de Denise Glaser. Il se trouve aussi que la fin du poème est votre citation béquille, Boulet. Donc c'est la dernière question de l'émission. Est-ce que vous vous enivrez facilement des choses? Est-ce que vous avez une gratitude naturelle pour les joies simples et pures? Ou est-ce que ça demande un effort de conscience?
Alors, je pense que déjà il y a un double sens dans cette citation. C'est-à-dire que l'enivrez-vous, si on le prend par exemple en anglais, s'enivrer, c'est s'intoxiquer, c'est intoxicate. Et je pense que il y a ce côté un peu désespéré d'une fuite dans cette citation. Et en même temps, c'est pas une citation très positive. Elle peut être prise à double sens. Et c'est ça que j'aime bien. Et aussi le fait qu'il parle de vertu et d'amour à la fin. C'est-à-dire que pour moi, l'ivresse, c'est pas forcément quelque chose d'excessif. C'est pas quelque chose dans lequel on va se réfugier forcément. Mais ça peut être aussi quelque chose, une obsession qu'on construit jour à jour. On avait souvent l'injonction à se lâcher quand on était étudiant en art. On nous disait, il faut vous lâcher. Et moi, je comprenais pas ça. Moi, je comprenais le travail de dessinateur pour moi. Et globalement, c'était d'être dans mon coin et de faire des choses petit à petit, d'empiler, de faire grossir, de faire pousser comme une plante. Suite à ça, j'aime bien que dans la phrase du poème, il y ait « vous pouvez vous enivrer de vertu », en fait. Parce que tout à coup, ça dit « oui, l'intoxication, c'est pas forcément seulement de l'alcool, de la drogue et de la bagarre, quoi. Ça peut être des petites choses qui sont importantes pour vous. »
Oui, on n'est pas obligé de se détruire.
Voilà.
Même si c'est l'élan naturel de l'homme. Merci beaucoup, Boula, d'être venu dans cette émission.
Eh ben, merci à vous de m'avoir reçu.
Vous avez illustré cette année le joli Coco, coécrit avec Capucine aux éditions Lapin. On peut consulter vos notes sur votre site bouletcorp.com ou en papier, puisqu'elles paraissent également aux éditions Delcourt dans la collection Shampoing. Et je signale qu'en début d'année chez Delcourt est paru le deuxième tome de Bolshoï Arena. Vous êtes au scénario et Hassen est au dessin. Chers auditeurs, programmation musicale, remède et même un bonus vers une planche de boulet. Vous verrez, c'est un remède aussi dont on n'a pas eu le temps de parler. C'est sur le site de l'émission. J'espère que votre âme a l'entrain d'une mortadelle fascinée. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.